Dans le cadre du 10e festival Afrique en création, le dramaturge franco-algérien Slimane Benaïssa était un des principaux invités. Le public pragois a notamment pu découvrir sa pièce « Les confessions d'un musulman de mauvaise foi » présentée le 25 mars au café de l'Institut français de Prague. Un peu avant cette lecture scénique, Anna Kobeshta s'est entretenue avec lui. Le bilinguisme, la double culture, le théâtre, mais aussi l'avenir des pays arabes secoués de l'intérieur par la colère des populations. Autant de sujets qui ont été abordés par Slimane Benaïssa. Étonnamment, quand on lit sa biographie, on découvre qu'il a d'abord suivi une formation scientifique. Comment est-il arrivé au théâtre? C'est ce que Slimane Benaïssa a expliqué à Anna Kobeshta.
Culture sans frontières.
C'est un peu lié à notre génération, parce que moi, c'est mon père qui nous a envoyés dans des filières techniques. On est trois frères. Un, il est ingénieur nucléaire, docteur d'état en énergie nucléaire, père du laser, d'ailleurs. Il a fait sa thèse sur les hyperfréquences. Le deuxième est un grand spécialiste du froid, la chaîne de froid. Et moi, j'ai viré dans l'électronique, et dans l'électronique, j'ai choisi la spécialité matériel médical, c'est-à-dire radiologie, électroencéphalographie, tout ça, quoi. Mais en même temps, j'avais une licence de littérature arabe. Donc je suis littéraire en arabe, scientifique en français, ce qui rend les deux langues très claires dans ma tête, et mon bilinguisme complémentaire.
Donc c'est pas schizophrénique alors?
Non, c'est pas du tout. Alors quand j'entendais à l'époque les intellectuels, oui, écrire dans ma douleur, écrire la langue de l'autre, écrire ceci, mais alors là, j'ai jamais rien compris à ça, quoi. Et de toute manière, les deux aspects sont complémentaires, même dans le travail théâtral, quoi. Quand je construis ma pièce, c'est très scientifique, c'est une architecture vraiment qui relève de celle du bâtiment, quoi. C'est comment tu construis la pièce et le côté poétique, bon, je l'ai en arabe, donc j'ai le meilleur des arabes et le meilleur des français.
Vous parlez justement de ces deux langues, donc vous écrivez à la fois de manière littéraire en arabe et en français, les deux ou seulement en arabe?
Non, j'écris en arabe et en français. En Algérie, j'ai fait du théâtre en arabe et en France, j'ai fait du théâtre en français. C'est-à-dire que je suis biculturel en réalité, quoi. On a baigné profondément dans les deux cultures. Et la culture avec tout ce qu'elle entraîne, quand je goûte le vin, je goûte le vin comme un Français, je goûte les fromages. C'est tout ça aussi, la culture, être sensible à beaucoup de choses. Et voilà, donc je peux écrire en français et je peux écrire en arabe.
Alors justement, ici à Prague, on présente une de vos pièces, en tout cas une lecture scénique d'une de vos pièces, puisque c'est pas joué précisément dans un théâtre. C'est Les confessions d'un musulman de mauvaise foi. Alors c'est un très beau titre. Est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu? Comment est-ce qu'est née cette pièce?
Elle est la suite d'une trilogie ici, c'est née d'une quadrilogie, quoi. J'ai commencé avec Les fils de l'amertume qui traite de l'intégrisme, l'assassinat d'un frère par un autre. Ensuite, j'ai écrit Prophète sans Dieu, qui est Moïse qui convoque Jésus et Mahomet pour leur dire, nous sommes tous les trois fils d'Abraham, qu'est-ce qui se passe? Et Mahomet ne vient pas parce qu'il est interdit de représentation. Donc on entre dans une situation, dans une thématique sur la représentation à tous les niveaux, qui représente quoi, on représente au théâtre quoi, et ainsi de suite. La troisième, ça a été sur l'avenir oublié, c'est-à-dire sur la crise israélo-palestinienne. Là aussi, j'ai poursuivi la thématique des deux frères ennemis. Et au bout de tout ça, j'avais une overdose de religion, quoi. J'en avais plein de temps. Je voulais quand même rire un peu de tout ça. Et donc, j'ai raconté l'histoire d'un jeune musulman maghrébin éduqué dans la religion qui rencontre une Française dont il est fou, amoureux. Et elle naïve, en toute naïveté, lui met à table du porc, du vin, et comment il va transgresser ses interdits. Et je trouvais assez intéressant et éloquent de montrer comment on transgresse les interdits d'une religion pour parler de la religion. Et en définitive, il fait un deal avec Dieu, il lui dit, écoute, réponds à mon désir et je répondrai à tes interdits, mais si tu le fais pas, je vais pécher, et je peux plus, je suis à la limite. Et Dieu ne répond pas là-dessus, et donc, La rupture se fait d'une manière tout à fait amoureuse.
C'est des adolescents qui sont les personnages, alors c'est aussi une pièce qui s'adresse justement aux jeunes.
Ah oui, oui, elle a eu beaucoup, on l'a joué plus de 150 fois en France et ailleurs, même à Montréal, en Belgique et en Suisse. Et comme pièce d'éducation religieuse, les adolescents se marrent énormément, quoi. On a fait même une tournée à Nantes dans le cadre de l'Académie de Nantes. Une quinzaine de représentations dans tous les lycées de l'Académie de Nantes. Et ça a été un délire, moi. C'est vachement bien.
Ah bon, c'est difficile de ne pas parler de ça avec vous, finalement. On voit que les événements récents dans le monde arabe, en Tunisie, il y a des révolutions partout. Quel est un peu votre sentiment par rapport à votre pays d'origine, l'Algérie? Comment est-ce que vous voyez son avenir?
Révolution, c'est beaucoup dire, hein.
Révolte, en tout cas.
C'est des crises qui éclatent tout bêtement. Maintenant, c'est à réfléchir. La révolution est à réfléchir maintenant. Le monde arabe a été assimilé comme ressemblant, c'est-à-dire cette unité à la base de l'islam est une fausse unité. L'arabité, nous sommes tous des arabes, c'est une fausse unité. En réalité, chacun de nous a une histoire moderne complètement différente de l'autre. La preuve, il y a trois pays qui ont éclaté, la Tunisie, l'Égypte et la Libye. Ce sont trois contextes politiques complètement différents. Donc, ce qui amène à dire que chaque pays aura sa manière d'aller vers la démocratie. Nous, par rapport au monde arabe, avec tout ce qu'on a reçu sur la gueule, à commencer par notre guerre de libération qui a été quand même assez terrible, qui a poussé le peuple à ses limites. Donc, on a eu des pouvoirs quand même autoritaires, des plus violents, c'est-à-dire il n'y a pas pire que Boumediene. Boumediene, c'est lui qui a laissé l'Algérie dans cet état-là. Donc c'est une dictature à la soviétique, on était socialiste à l'époque, donc on a vu ça. Et au bout du chemin, on se paye l'intégrisme pendant 10 ans avec une violence extraordinaire. Ce qui fait que le peuple a une très grande conscience politique. S'il ne bouge pas actuellement, c'est qu'il a peur que ça dérive vraiment. Et le problème, à mon sens, en Algérie, n'est pas tellement le peuple en soi. C'est le pouvoir qui n'est pas stable depuis 88, depuis la disparition de Boumediene, justement, qui lui tenait un pouvoir de main ferme et il n'a pas laissé des institutions. Il y a un système qui est au cœur de la machine et ce système, et c'est exactement comme l'énergie nucléaire. On le fait éclater, tout le monde en reçoit sur la gueule parce que c'est très infiltré. Et comment l'étouffer à l'intérieur, c'est impossible. Il sera toujours rétroactif, si ce n'est réactif. Et donc c'est le problème, en tous les cas, c'est le point commun que nous avons tous les pays arabes. En Tunisie, c'est avec la police politique qui vont avoir des problèmes. En Égypte, c'est la même chose. Et ces polices-là ont des racines partout, c'est-à-dire le prolongement jusque dans le dernier des quartiers. C'est comme ça qu'ils contrôlent la chose.
Ce que vous voulez dire, en fait, c'est aussi que c'est pas le tout de, disons, d'évincer un dictateur. Il faut aussi, en fait, faire le ménage dans tout le reste, finalement, des institutions et de l'administration.
Il faut l'obliger à lui à faire le nettoyage, parce que c'est lui qui a mis la pourriture. Et je pense qu'en Algérie, peut-être, ça va se passer comme ça. Le système lui-même va se réformer. Parce que...
Par peur aussi de la contagion des autres...
Non, c'est-à-dire que Bouteflika, peut-être, va prendre la décision qu'il a 2 ans encore en tant que président, qu'il va consacrer ces 2 ans à nettoyer le pays, à laisser après lui un jeu électoral au moins jouable. Mais ça reste une supposition et un grand point d'interrogation. On le saura peut-être d'ici avril.
Et sur les autres conflits dans les autres pays, alors évidemment, il n'y a pas forcément les mêmes cas de figure. Est-ce que vous pensez qu'une forme de démocratie peut s'installer dans ces pays, finalement, qui ont été sous le joug de dictatures pendant des années? Comment est-ce qu'une transition peut se faire de manière douce?
Vous savez, nos échecs, c'est parce que nos indépendances n'ont pas été accompagnées. Le colonisateur est parti, il a claqué la porte en colère, vexé. Il a laissé des voyous à la tête de ces choses-là. Ils ont fait ce qu'ils ont pu, à la limite. Parce que moi, je les connais, je connais certains. Ils ne pouvaient pas faire mieux. Et en plus, il est persuadé d'avoir fait le maximum. C'est une question de niveau culturel, c'est une question de formation. C'est pas des énarques, c'est des gens qui ont pris le maquis il y a 20 ans et à 27 ans, ils se retrouvent à la tête d'un pays. Bon, il fait ce qu'il peut. Il faut pas oublier, Boumediene était président à 27 ans, il est mort à 47 ans, après 13 ans de pouvoir. Il était à 23 ans chef de l'état-major à Khardimaou. Donc c'est des gamins. Qu'est-ce qu'on peut leur demander? C'est des gamins. Donc, les indépendances n'ont pas été accompagnées. Si les démocraties aujourd'hui ne sont pas accompagnées, ça va être encore pire. Pire que tout. Donc, est-ce que vraiment les peuples arabes ont le niveau de conscience et des traditions de lutte civique de manière à pas à pas construire ces démocraties, parce que les démocraties, c'est pas prendre le maquis, c'est pas tuer, c'est pas sortir tous les jours dans les rues pour gueuler, pour n'importe quoi. Donc, il y a un acte citoyen qui doit accompagner la construction même de la démocratie. Est-ce que le peuple arabe est assez citoyen? J'en sais pas. Je doute beaucoup. Et c'est pour ça qu'en Algérie, les gens, la première chose, tu dis, on bouge pas, sinon l'édifice tombe, et après, on sait plus ce qui se passe. On ne sait plus ce qui se passe. Donc autant rester là où nous sommes. Et on verra bien avec le temps. Mais ça cogite dans la tête des gens, dans la tête des intellectuels, dans la tête du gouvernement. Tout le monde est en état d'ébullition parce qu'il faut bien trouver une issue.